Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à notre premier épisode du podcast Le Monde du Libre en enseignement supérieur. Nous sommes l'ADTE. Je vous explique rapidement qui est l'ADTE. C'est l'Association pour le développement technologique en éducation. Nous, on est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir les logiciels puis les ressources éducatives libres, la science, les données ouvertes dans l'enseignement supérieur. On souhaite faciliter leur partage, partager l'expertise à leur sujet puis développer leur utilisation. Donc, nouveau podcast sur les logiciels libres, sur l'éducation supérieure. On va vous parler du bon, du mauvais dans le monde du logiciel libre. On veut vous aider surtout à prendre les bonnes décisions. J'ai avec moi mes deux compagnons de l'ADTE, Alexandre Nkerly et Ryan W. Moon.
Allô.
Salut les gars.
Bonjour.
Salut. Première chose que je voudrais vous demander, vous présenter, messieurs. Donc, je vais commencer par Alexandre. Peux-tu nous faire une brève présentation? Qui es-tu?
Oui, bien, en fait, je suis conseiller technopédagogique chez Collecto, dans le secteur de pédagogie numérique. Sinon, au départ, je suis anthropologue. J'ai enseigné les disciplines ethnographiques dans 9 universités aux États-Unis et au Canada. Et ça fait un bout de temps que je suis dans le milieu collégial. C'est mon 30e emploi. Je le répète souvent parce que quand j'essaye de dire que c'est pas partout pareil, j'ai l'impression que c'est assez réaliste, des trucs comme ça. Puis je m'intéresse au libre depuis quand même très longtemps, y compris en éducation ouverte et libre, c'est dans mes chevaux de bataille.
Puis c'est quoi ton rôle à l'ADTE, rapidement, Alex?
Ben, je suis VP depuis quelques temps, depuis un an à peu près. Et puis, beaucoup pour soutenir une autre personne dont tu vas parler dans quelques instants.
Merci beaucoup, Alexandre. Maintenant, Ryan, peux-tu te présenter?
Oui, bonjour, Ryan W. Moon. Je suis conseiller pédagogique dans ma vraie vie au Cégep à distance, qui est un organisme qui a un mandat provincial au Québec de fournir la formation à distance au niveau collégial. J'y travaille depuis 2006. Avant ça, j'étais dans le secteur privé à Toronto et à Montréal. Donc, c'est ça. Moi, je suis président de l'ADTE actuellement. Pour parler un petit peu de mon intérêt pour le libre, je pense autour de 96 ou 97, j'ai installé ma première distribution de Linux avec un paquet de floppy gros de même. C'était Slackware, puis moi je suis mordu du libre depuis. J'ai plusieurs ordinateurs avec GNU Linux, puis je fais aussi la promotion de plateformes libres. J'ai commencé avec WebCity avant que ce soit propriétaire, après ça Alias, Moodle, etc. Donc je suis beaucoup le monde du libre depuis assez longtemps, plus que 20 ans. Là.
Wow, ok, merci. Deux vétérans en fait, deux vétérans du libre, on va dire ça comme ça, les gars, ça fait longtemps que vous êtes là-dedans. Mais merci. Moi, je me présente Jean-François Pilon. Moi, je suis enseignant au collège de Maisonneuve et concepteur pédagogique aussi à mes heures. Il faut dire, j'ai déjà travaillé avec Ryan justement à Cégep à distance il y a quelques années. Alex, on se connaît depuis qu'on est dans l'ADTE. En fait, depuis que j'ai joint l'AG de l'ADTE l'année passée. Puis moi, je m'intéresse beaucoup au logiciel libre. Je travaille avec Moodle beaucoup pour mes cours. Ça m'intéresse pour plusieurs raisons là, qu'on va parler aujourd'hui. J'utilise aussi des logiciels. Je suis un peu sur Linux, mais je suis encore un peu avec la ligne de commande par moment à me battre. Mais j'apprécie beaucoup. Là, j'ai testé Ubuntu, entre autres. J'utilise des logiciels libres comme OBS, Audacity. Ça m'intéresse beaucoup. Fait que je gravite autour de ça, je me tiens au courant, mais je n'ai pas l'expertise de mes deux analystes ici, je tiens à le dire. Et c'est pour ça que c'est eux qui vont vous en parler plus en détail. Donc, pour commencer, j'ai la première question la plus évidente, hein, si on veut. Je voulais savoir, les gars, pouvez-vous me dire, en fait, on va commencer par Alexandre, Alex, c'est quoi un logiciel libre?
Ben, un logiciel libre, c'est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification et la duplication par autrui en vue de sa diffusion sont permises techniquement et juridiquement. Ceci afin de garantir certaines libertés induites, dont le contrôle du programme par l'utilisateur et la possibilité de partage entre individus. Il y a d'autres choses sur cette définition-là qui est évidemment très cadrée. Et là où on insiste pour le logiciel libre, c'est que oui, il y a des libertés qui sont permises à la fois juridiquement. Il y a une licence derrière ça. C'est ultra important. Personne autour de la table est juriste, à ce que je sache, mais quand on parle de logiciel libre, très souvent, on parle d'aspects juridiques, mais il y a aussi des aspects techniques qui sont aussi très importants à considérer.
Est-ce que tu peux t'ouvrir un peu une parenthèse rapidement? Quel aspect technique? Qu'est-ce qu'il y en est?
Bien, en fait, c'est que même si on laisse des droits aux gens dans l'abstrait de faire ce qu'ils veulent avec un logiciel, mais qu'on empêche les gens avec des moyens techniques comme des verrous numériques de cacher le code, de faire en sorte qu'il n'y ait aucune possibilité technique de retrouver ce qui fait le logiciel, ben, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est pas un logiciel libre, même si techniquement on appose une licence qui serait libre.
Ah, ça m'amène à une certaine question, je pense qu'il est d'actualité aussi, parce que bon, on parle de logiciel libre, mais surtout, il y a beaucoup de gens qui vont entendre le terme open source. C'est souvent ça. Bon, on vit dans un monde, on est baigné aussi, là, dans c'est des termes qui sont souvent anglais. Je voudrais savoir, Ryan, c'est quoi le open source? Puis est-ce qu'il y a une différence entre le open source puis les logiciels libres?
Mais souvent, on met les deux ensemble. L'acronyme en anglais, c'est FLAS, c'est Free, Libre and Open Source Software. En fait, la liberté avec le logiciel, c'est beaucoup le concept de pouvoir partager gratuitement cet logiciel-là, de l'installer sur n'importe quelle plateforme, n'importe combien de n'importe quel montant de copies. Donc, il y a beaucoup de liberté, mais il y a aussi la liberté de changer le code, l'adapter aux besoins de la personne. C'est pas tout le monde nécessairement qui est en mesure de faire la programmation. Mais pour ceux qui apprennent, qu'est-ce qui est intéressant, c'est le logiciel libre. On peut regarder le code. C'est souvent hébergé sur Internet, ce code-là. Ça permet à l'utilisateur de voir exactement qu'est-ce que le logiciel fait pendant que c'est en marche, puis on peut l'ajuster. C'est très intéressant d'ailleurs pour l'internationalisation des logiciels parce que souvent, on va faire des fichiers texte ressources qui sont appelés par l'application, puis un traducteur ou une traductrice peut facilement traduire le code. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de discussions sur les enjeux éthiques du logiciel propriétaire. Comme on n'a pas accès au code, on ne peut pas savoir exactement qu'est-ce que le logiciel est en train de faire pendant que c'est en marche. Et on entend aussi des histoires avec des algorithmes qui ont un bias. Donc, ils sont programmés d'une certaine façon qui pourrait rendre... comment est-ce que je peux dire ça? Écoute, si tu as un logiciel qui est utilisé par les policiers, puis là, c'est programmé pour chercher un certain profil de clientèle et tout ça. Mais écoute, il y a déjà dans la programmation une inéquité qui existe. Mais comme on n'a pas accès à voir ce code-là, c'est difficile à savoir. Donc, le logiciel libre, c'est vraiment important d'avoir cette possibilité d'analyser le code et d'améliorer également le code. Puis Linus Torvalds, c'est la personne qui est à la base du logiciel Linux, le kernel Linux. Lui, il dit plus qu'on a du monde pour regarder le code, plus qu'on trouve des solutions quand le code est brisé. Donc ça, c'est très intéressant avec le logiciel libre.
Parfait, merci. Merci, Ryan. Ça m'amène aussi à poser, parce que tu l'as mentionné un peu, Mais c'est quoi, à ce moment-là, c'est quoi un logiciel propriétaire? Alex, tu peux peut-être nous en dire plus.
Ben, juste avant ça, je vais me permettre de rebondir un peu sur ce que Ryan disait au sujet des biais, parce que c'est quelque chose qui peut intéresser notre réseau quand même pas mal, c'est qu'il y a beaucoup de travail en IA ces temps-ci, puis il y a la fameuse déclaration de Montréal sur l'IA responsable, qui est basée évidemment à Montréal, et qui a un impact sur toutes sortes de personnes dans notre réseau, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en IA ces temps-ci. Et puis, un des grands principes,
juste,
c'est la
Alex,
transparence.
Oui? Intelligence artificielle pour nos personnes qui ne connaissent pas les acronymes.
Intelligence artificielle, donc ça a vraiment un impact sur notre réseau et un des principes de base, c'est vraiment sur la transparence. Alors, c'est de se dire, le code source, quand le code source est disponible, au-delà des libertés que ça permet, c'est simplement une question de transparence et d'imputabilité. Alors, il y a quelque chose de quand même assez important là-dessus. Sur le logiciel propriétaire, ben, ce que ça veut vraiment dire, c'est que le code source lui-même est exclusif à une entité qui développe le logiciel en question et qui contrôle en fait la distribution du logiciel lui-même, souvent avec un coût, mais quelque chose qui se passe beaucoup dans notre réseau, c'est que les gens confondent entre logiciel libre et logiciel gratuit. Il y a énormément de logiciels gratuits qui sont propriétaires, qui sont en fait basé sur un modèle d'affaires qui va prendre, soutirer les données de nos apprenants, ce qui est particulièrement problématique, surtout quand on impose le logiciel, l'utilisation du logiciel à nos apprenants. Alors évidemment, il y a plein d'exemples. Le compte, si le compte de base est gratuit, mais qu'il y a une fonctionnalité supplémentaire quand on paye, tout ça, on se dit « Ah, ben c'est pas grave, juste utiliser la fonctionnalité gratuite. » Mais très, très souvent, c'est avec l'utilisation de données. Donc, avec des choses qui sont, dans certains cas, contre la loi au Québec, sur la vie privée, mais aussi qui donnent un avantage compétitif à une entreprise qui peut maintenant savoir, même si c'est anonyme, de savoir que, au Québec, les apprenants vont beaucoup travailler sur tel truc. Je peux maintenant me trouver un contrat au Québec dans un certain contexte que mon compétiteur ne pourra pas avoir. Le seul propriétaire, c'est vraiment l'idée que le contrôle est exclusif. C'est un peu comme le droit d'auteur exclusif, disant qu'on est la seule personne qui peut reproduire, contrôler la reproduction et ainsi de suite, tandis que les licences Creative Commons, je sais qu'on va en parler plus à fond, mais les licences Creative Commons, ça donne certaines portes ouvertes aux gens de faire plusieurs choses avec du contenu qui reste sous le droit d'auteur. Mais le droit d'auteur, c'est vraiment sur le contrôle. Avec un logiciel propriétaire, c'est sur le contrôle que l'entreprise peut avoir sur ce que les gens vont faire avec leur logiciel.
Donc, c'est ça. Hein, avec le logiciel propriétaire, quand on ne paye pas, c'est nous le produit, là, comme on dit. Merci. Merci pour ces infos-là. Par ailleurs, je voulais vous parler de aussi. C'est peut-être moins connu, mais je voulais vous parler du Free Software Foundation, qui est quand même une fondation qui est importante, une organisation qui est importante avec le logiciel libre. Est-ce que vous pouvez me parler de la Free Software Foundation, puis de Richard Stallman, qui est cet homme, en fait, et le projet GNU? Je mets tout ça ensemble, mais Ryan ou Alex, hein, un des deux, celui qui veut prendre la balle au bon.
Je pense que c'est mon tour de parler, donc c'est ça. Je vais parler un petit peu de Richard Stallman. En fait, c'est une personne qui a travaillé au MIT, puis c'est souvent la personne qui est reconnue un peu comme le parrain du logiciel libre. Lui, puis c'est ça, des programmeurs se sont mis ensemble pour créer un ensemble de logiciels qui se retrouve jumelé avec un autre système qui s'appelle Linux, qui est un noyau de système d'exploitation. Linux a été créé par Linus Torvald. C'est une suite de logiciels qu'on met ensemble qui fonctionne un petit peu comme les systèmes d'exploitation qu'on voit du côté propriétaire. En fait, c'est un système qui permet l'utilisation d'un ordinateur C'est vraiment intéressant comment c'est fait parce qu'on peut installer sur plusieurs équipements, puis c'est comme par magie, ça fonctionne sur plusieurs systèmes. Donc Richard Stallman était vraiment la personne qui était une des personnes fondatrices de ce mouvement-là. Il est reconnu pour ses années aussi de militantisme envers le logiciel libre et c'est ça, il a fait le tour du monde pour parler un petit peu du logiciel libre, ses avantages, puis aussi les risques avec les logiciels propriétaires. Il est vraiment très, très convaincu. C'est un ardent défenseur du code libre et ouvert. Il a des avis un peu sur tout. On n'est pas toujours d'accord avec lui sur tout, mais c'est vraiment une personne, un pilier du monde du libre. Puis je pense que c'était une des personnes qui a fondé le Free Software Foundation. Je ne connais pas tout l'historique du Free Software Foundation, mais. Eux autres, ils ont plusieurs projets qui parrainent, puis ils s'assurent que le développement continue. Ils font des campagnes de financement pour essayer de financer le développement de ces logiciels, puis ils font la promotion du logiciel libre. Donc, c'est vraiment une fondation, un OBNL qui est très important dans le monde du libre. C'est aussi quelqu'un qui fait face un petit peu aux excès des multinationales qui abusent un petit peu parfois l'utilisation de nos données, etc. Alex peut compléter peut-être ma réponse s'il veut.
Ben, juste pour préciser aussi, parce qu'on parle aussi de Linus Torvalds, qui en 91 a sorti le kernel, le noyau de Linux, qui était basé sur d'autres choses, inspiré par d'autres choses. Ce n'était pas la première fois que ça avait été fait, de faire un système Unix. Unix date depuis assez longtemps, puis il y a toutes sortes de liens entre Unix, le langage de programmation C et Internet comme tel. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont faites à la fin des années 60, et il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées entre ce moment-là, à la fin des années 60, pour Unix, le langage C, les premières connexions réseau. En 69. Alors, ça fait quand même assez longtemps. On dit que les gens sont natifs du numérique. Ben, en fait, le numérique existe depuis pas mal longtemps. Et puis, c'est pas trop sur la date où on est né. Mais de bien comprendre aussi que les logiciels, au départ, ils étaient tous libres d'une certaine façon. C'est juste dans les années 80 que ça a commencé vraiment à se fonder, que les logiciels propriétaires. Ben en fait, la fin des années 70, les logiciels propriétaires, avec des gens comme Bill Gates, ont commencé à être fondés en se disant, oui, on pourrait faire de l'argent avec le logiciel comme tel, plutôt que juste vendre les ordinateurs, puis après donner le logiciel gratuitement. Puis pour la petite histoire aussi, Stallman était frustré avec le logiciel derrière une imprimante laser en 80. Puis c'est comme ça qu'il a créé un petit logiciel en se disant, ben ça règle un problème pour plusieurs personnes. Alors, c'était assez important de le partager. Puis, une autre chose à dire aussi, c'est que, comme Ryan le disait, Stallman, c'est un militant. Et évidemment, on n'a rien contre les militants, mais c'est aussi assez clair que notre rôle, la DTE, c'est à la fois de faire la promotion du logiciel libre, mais on conserve le sens critique. Et on peut avoir certains aspects pragmatiques, ce qui sont dénigrés par Stallman assez souvent. Il trouve que le pragmatisme n'a pas lieu d'être. On a le droit de dire que c'est quelqu'un d'opiniâtre, ce qui est extrêmement utile dans le mouvement. C'est vrai que la Free Software Foundation a pu soutenir de nombreux projets grâce à ce focus-là, cette attention particulière portée. Très directement aux libertés du logiciel, et non seulement du logiciel, mais pour Stallman lui-même, il ne va pas utiliser un ordinateur qui a un contrôleur qui n'est pas libre. Ça va très, très, très loin dans son approche. Il ne veut pas utiliser de carte de crédit, des choses comme ça. Chaque personne qui l'a côtoyé d'une façon ou une autre a de multiples anecdotes à raconter. Et probablement que dans le balado, on va pouvoir en reparler plus avant, mais de comprendre que oui, c'est un personnage. Nous, on se situe dans une tendance qui est très portée sur l'enseignement supérieur, donc du sens critique. On veut vous aider, comme Jean-François l'a dit plus tôt, on veut aider les gens à prendre des bonnes décisions et non seulement, et non d'imposer une décision qu'on croit qu'est la bonne. On vous apprécie, même si vous prenez des décisions sur le logiciel propriétaire qu'on ne soutient pas. On le fait aussi de toutes sortes de façons. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est simplement pour faire avancer le mouvement le plus possible.
Oui, ben c'est sûr que bon, moi Stallman, je le connais un peu à travers les branches. J'ai lu sur lui, c'est un puriste, puis c'est important, effectivement. Mais bon, il y a différentes nuances et différents niveaux de comment dire, d'intérêt par rapport au logiciel libre. Puis, ben c'est ça. Nous, on est là, on veut vous aider. On utilise, moi, je ne suis pas puriste au point de ne pas utiliser de logiciel propriétaire. Au contraire, comme enseignant, si je travaille avec Teams, comme beaucoup de gens dans le milieu à l'heure actuelle, je suis sur Windows à l'heure actuelle aussi. Puis, j'ai pas de. Il y a des critiques à faire sur là-dessus, mais notre but, dans le fond, nous, c'est vous amener à voir pourquoi ça nous importe autant. Puis c'est un peu la prochaine question que je vais vous lancer. Messieurs, pourquoi le logiciel libre, pourquoi on est dans la DTE, nous autres, puis pourquoi le logiciel libre, ça nous importe autant de le promouvoir puis de l'utiliser? Puis je vous dirais même, je vais préciser ma question, à l'époque actuelle, maintenant, là, en 2022, pourquoi ça nous importe autant? Ryan?
Oui, c'est une très bonne question et je peux facilement passer une ou deux heures à répondre à cette question-là. Mais je vais être un peu plus concis. Moi, personnellement, je suis une personne qui croit beaucoup aux libertés de choix. Puis quand une solution nous est imposée dans n'importe quelle sphère de notre vie, mais je pense qu'on perd quelque chose. C'est tout à fait intéressant d'avoir des alternatives. Écoute, quand il y a des choses qui brisent, moi, j'ai plus qu'un ordinateur à la maison. Là. Je suis un bon administrateur de réseau ici localement. Puis c'est ça, je peux rapidement faire un rechange et avoir un système qui fonctionne. Moi, ma crainte, c'est que si on utilise tous la même solution, on va être vraiment pris avec cette solution pour le reste de nos jours. Donc, moi, j'aime développer mes compétences dans toutes sortes d'outils. Et une autre chose, c'est que j'aime l'idée de l'accessibilité des études pour tous. On sait que c'est de plus en plus cher pour les étudiants de suivre des cours, etc. Mais là, avec le mouvement du logiciel libre, au moins on peut réduire les coûts. Avec le mouvement des manuels libres, mais peut-être ça va coûter moins cher un jour pour acheter des manuels. Je pense qu'en être humain, on est beaucoup mieux quand on travaille sur plusieurs choses. Je suis contre des monopoles de façon générale, parce que du côté économique, une chose que je dis très ouvertement, moi, je suis un cas écossais, puis nous, les Écossais, on est très, c'est ça, serrés avec nos finances souvent. Puis on a constaté des monopoles, souvent, c'est le monopole qui établit le prix pour l'affaire. Une fois que tu as un monopole, mais tu n'as pas vraiment de compétition, donc tu contrôles le prix des choses. C'est ça que je trouve intéressant du logiciel libre, c'est d'avoir des alternatives. Donc, si la personne qui est en situation de monopole dit « Écoute, c'est 25% plus cher cette année pour avoir accès à notre outil », nous, on peut dire « Merci, c'était le fun d'être avec vous, mais nous, on va sortir de votre solution parce qu'on a cette alternative qui fonctionne très bien, qui ne coûte rien en termes de licence, mais pour qui il y a un coût de soutien pour ces outils-là. » Je pense que c'est très, très important dans n'importe quelle sphère d'avoir de la compétition. Il faut juste regarder au Canada le nombre de compagnies de cellulaire pour voir qu'il y a un mini-monopole de prix, puis on est parmi les pays qui payent le plus cher les données. Donc, c'est parce qu'il y a un petit gang de personnes qui contrôlent les prix du marché. Donc, j'arrête là. Je conserve mes deux auteurs de discours pour notre podcast.
Merci Ryan. Puis pour toi, Alex, pourquoi ça t'importe? Je pense que tu es sur mute.
C'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ce que Ryan disait sur l'accès aux études, l'accès à la connaissance, en fait au développement de la connaissance. C'est là où, pour moi, l'éducation ouverte et libre, je pense qu'on l'a quand même annoncé d'une certaine façon, que ce n'est pas seulement sur le logiciel libre, c'est aussi sur les ressources éducatives libres et comment on les produit, comment on les crée, comment on les partage, comment on les adapte. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe justement au-delà du manuel. Un manuel pour l'enseignement, c'est un peu une béquille. Je pense qu'on a tous enseigné déjà avec des manuels. Ça peut être pratique, mais ça a ses limites. Et ce qu'il y a de génial avec la liberté, c'est qu'on peut les adapter à différents contextes. Ryan, plutôt, a parlé de l'internationalisation, la traduction, et ainsi de suite, rendre adapté à un contexte particulier. Ben, dans le cas des ressources qu'on développe, ben, c'est vraiment d'adapter à toutes sortes de contextes, de se rendre beaucoup plus flexible. Et je pense que c'est important, même pour l'environnement, d'aller jusque-là, de créer des choses qui ne sont pas seulement jetables à la fin d'un semestre, mais qu'on peut adapter à différents contextes. Et assez spécifiquement, pour l'apprentissage, je crois que ce que le logiciel libre permet, c'est non seulement d'avoir un accès à quelque chose qui ne demande pas un coût de licence, et ainsi de suite, et qui n'a pas un contrôle exercé par une entreprise privée qui, très souvent, comme je le disais plus tôt, utilise les données des apprenants, mais c'est aussi qu'on peut comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. De prendre l'appropriation technologique, pour moi, c'est extrêmement important, et ça passe par exactement ça. On n'est pas obligé de coder, on peut quand même regarder. Sous le capot, je conduis pas, mais l'analogie est souvent utilisée, et puis de comprendre comment quelque chose est construit, que ce soit un plan d'affaires ou un appareil utilisé dans le milieu de la santé, ou un schéma conceptuel, ou un logiciel, ben, tout ça, on peut l'ouvrir. Puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. En enseignement supérieur, spécifiquement, on a ce devoir-là de s'aider les unes les autres à vraiment comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la surface. Et le logiciel libre est une excellente opportunité de faire ça. Une des choses un des contextes dans lesquels j'ai beaucoup utilisé le logiciel libre, c'est en musique. Et surtout avec différentes personnes, depuis des enfants de 7 ans jusqu'à des profs de cégep ou quoi que ce soit, sur l'utilisation de SonicPy, qui est un langage de programmation pour la musique. Je l'ai même présenté au colloque libre de l'ADTE il y a quelques années, parce qu'il n'y a pas d'équivalent commercial propriétaire. Ça n'existe tout simplement pas. La même chose n'existe pas. Et en faisant un tout petit peu de programmation, parce qu'avec deux fonctions, on peut recréer n'importe quelle mélodie dans le monde, et avec des principes ultra simples, on peut faire des choses qui sont grandioses, qui nous permettent de comprendre l'environnement dans lequel on est. Sans devenir des programmeurs, on peut comprendre comment fonctionne le monde numérique qui nous entoure. Donc, la littératie numérique passe beaucoup plus facilement par le logiciel libre que par l'utilisation d'un logiciel propriétaire, même si c'est au-delà de la question de coût et tout ça. Pas que les coûts n'ont pas d'importance, mais je pense que il y a de nouvelles structures qui s'imposent qui vont justement au-delà des coûts.
Merci, Alex. Ben, effectivement, moi, je vais vous donner peut-être une autre perspective parce que bon, je l'utilise beaucoup comme enseignant. Puis pourquoi ça m'importe, c'est que je pense que si je parle à les enseignants nous écoutent, des fois, on n'a pas super le temps. T'sais, on manque de temps pour faire toutes sortes de choses, pour faire nos cours, etc. Puis on est obligé à certains moments de, par exemple, d'utiliser, quand on parlait de manuel scolaire. Bon, moi, j'en utilise. Par contre, ces manuels-là commencent à être très chers à l'heure actuelle pour les étudiants. C'est les étudiants qui les achètent et ça commence à être cher. Puis de plus en plus, on essaie, en tout cas moi j'essaie d'aller chercher des ressources éducatives libres parce que c'est des ressources qui sont gratuites, les étudiants peuvent les utiliser puis ils n'ont pas de coûts qui sont associés à ça. C'est pas tous les étudiants nécessairement qui ont l'argent pour s'acheter des manuels à 60, 70, 80, 90 $, fois des fois 4, 5, 6, 7 cours. par session. Moi, j'ai plusieurs étudiants que c'est problématique pour eux. Donc, les ressources éducatives libres, c'est utile. Pour ce qui est des logiciels libres aussi, même chose. Parfois, je leur demande de réaliser des travaux puis tout. Puis quand je leur donne des logiciels libres en suggestion, ben ils peuvent l'utiliser puis ça leur coûte rien. Je vous donne un exemple de ça. Par exemple, moi, je suis en gestion de projet. Ben le logiciel Projet Libre, qui est un logiciel de gestion de projet qui remplace un logiciel très connu qui s'appelle MS Project. Il ne coûte rien alors que les licences coûtent une fortune au collège. Donc, c'est ce genre de choses-là, ce genre d'options-là est super intéressante pour les étudiants puis pour aussi les enseignants qui veulent se monter un cours qui est à bas coût. Je pense qu'il y en a qui, puis je pense qu'il y a plusieurs enseignants qui peut-être sont moins intéressés par la question du libre en tant que tel, mais que ça, ça va les toucher. Puis je pense que c'est une partie des enseignants. Moi, j'ai parlé à beaucoup de collègues qui sont comme, ben, moi, ça ne me dérange pas un logiciel propriétaire, mais c'est vrai que s'il y a une question de coût qui va avec ça, s'il y a une question qui va, de données qui va avec ça, ben là, ça devient intéressant pour moi d'utiliser les logiciels libres. Puis d'utiliser à moindre. Le open source aussi, on va se le dire, hein, aussi. Il y a quand même beaucoup de logiciels open source qui sont utilisés, qui ne sont pas complètement libres non plus. Mais bref. Puis il y a Moodle aussi, l'incontournable Moodle, qui est utilisé dans le système collégial, universitaire aussi. Ce n'est pas toutes les universités. Il y a des universités qui ont leur propre, on appelle ça système d'apprentissage, Learning Management System. Mais moi, je suis un utilisateur de Moodle. C'est un incontournable Moodle avec ses qualités, ses défauts. Je pense qu'on va en parler de Moodle. C'est l'éléphant dans la pièce en éducation supérieure. C'est un logiciel qui a évolué, qui a été conçu il y a quand même un certain moment. Ça fait presque 20 ans qu'il a été conçu. Il y a des défauts. Il y a des défauts qu'il faut qu'on adresse. Puis je vous le dis, les gars, parce que moi, j'ai eu beaucoup de critiques de ça dans le milieu. Vous autres aussi, vous le savez. Mais comment on peut utiliser Moodle? Comment on peut y faire faire? Comment il y a certaines fonctionnalités incroyables avec Moodle que vous ne retrouverez même pas sur Teams? Bref, comment on utilise cette... ce gros véhicule de transport, des fois un peu gauche par moment, mais clairement très efficace. Donc, dans le fond, nous, ce qu'on va vous parler au courant des prochains mois, même peut-être des prochaines années, c'est quoi les logiciels qui nous importent? Comment ils peuvent être utiles aux différentes personnes dans le réseau, autant au niveau des concepteurs pédagogiques qu'au niveau des enseignants aussi, qui doivent se débrouiller un peu avec les moyens du bord. Les directions aussi qui ont des choix à faire, puis je pense qu'il y a des directions qui ont fait peut-être des choix qui, durant la pandémie, étaient peut-être plus évidents pour eux de par le contexte, mais qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on est un peu dans l'environnement Microsoft. Hein, maintenant, au niveau de l'éducation supérieure, ben est-ce que c'est possible de sortir de ça? C'est des questions, en fait, qui sont importantes. Puis, on va, on va parler de SkyTech, peut-être que vous ne connaissez pas, mais SkyTech qui est la compagnie qui gère Omnivox, cette plateforme avec ses bons et ses moins bons côtés. Je pense que c'est toutes des choses qu'on veut aborder avec vous, puis voir comment on peut les utiliser, puis maximiser, puis démocratiser. L'utilisation des logiciels libres en éducation supérieure. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter, messieurs, avant qu'on arrive à la conclusion de cet épisode-là?
Est-ce que j'y vais? Mais Jean-François, je pense que c'est très important de souligner la contribution du libre pendant la pandémie. Tu as invoqué Moodle, c'est vraiment, je pense, la plateforme de prédilection de plusieurs cégeps. C'est un logiciel libre et c'était présent. Ça a aidé vraiment tous les établissements qui ont choisi cet outil-là d'aller vers une prestation autre de l'enseignement pendant la pandémie. Le problème avec le libre, c'est que ils n'ont pas des budgets phénoménaux de marketing. Ils n'ont pas les moyens de faire des grosses campagnes de marketing comme on voit avec les multinationales, justement parce que c'est libre, c'est communautaire, etc. Donc, je pense souvent on tient pour acquis ces technologies-là, puis on ne devrait pas. Puis c'est une des mandats que j'ai donné à nos administrateurs à l'ADTE, c'est de rappeler les gens de l'importance. Écoute, la colonne vertébrale de l'Internet qu'on utilise à tous les jours et basée sur le lib. C'est des serveurs Apache avec des systèmes de base de données qui sont libres comme MariaDB, avec Linux comme système d'exploitation, avec des systèmes comme PHP pour servir le contenu web. C'est tellement omniprésent, mais les gens ne savent pas à quel point c'est important, ces solutions-là. Et aussi, écoute, l'Internet, oui, on paye un fournisseur pour avoir accès à l'Internet, mais toute la richesse qu'on a à cause de l'existence de l'Internet, il y a des bons côtés puis des moins bons côtés aussi de l'Internet, on ne cachera pas. Mais écoute, le lib a rendu possible l'Internet. Il faut jamais perdre ça de vue. Puis c'est ça qu'on va continuer à la DTE à marteler dans le réseau de l'enseignement supérieur. C'est l'importance de ces solutions-là. Il faut continuer à soutenir les programmeurs, les personnes qui font leur vie à faire la programmation de ces technologies-là. Si on donnait un pourcentage de nos budgets pour le logiciel payant à ces technologies-là, ça ferait toute une différence. Donc, on va faire un peu de militantisme dans cette stratégie-là à l'avenir. Je cède la parole à mon cher collègue Alexandre.
Jean-François, tu as parlé de Moodle, puis on en parle comme un incontournable. C'est vrai, et quelque chose d'intéressant aussi, c'est que Martin Nagyemas, qui a fondé Moodle, a aussi fondé l'association OpenEdTech Global. Et puis, en technologie éducative, il y a énormément de choses qui se passent, bien sûr, souvent avec des gens assez rapaces, honnêtement, là, qui vont faire de la vente sous pression. Des conseillers pédagogiques le savent beaucoup, je crois, parce qu'on reçoit beaucoup de choses des profs aussi, évidemment, là. Tandis que pour la technologie éducative ouverte, il y a quelque chose de ça qui est tout un modèle, c'est tout un écosystème dont on parle. C'est pas seulement Moodle comme environnement numérique d'apprentissage, mais vraiment un écosystème avec toutes sortes de parties intéressantes. Moi, mon héros de la pandémie, comme le logiciel libre, c'est probablement H5P. Parce que, entre autres en Ontario, ça s'est fait aussi au Québec de plusieurs façons, mais H5P, qui est un paquetage de HTML5, mais c'est spécifiquement une série de librairies qui sont disponibles en tant que logiciel libre, avec une licence en général très libre. Ces petits paquets-là qui remplacent les anciens modules SCORM, souvent en Flash. Donc, si vous ne les connaissez pas, tant mieux, parce que ces modules-là étaient très souvent comme une espèce de PowerPoint glorifié, où les gens passaient d'un truc à l'autre avec un petit peu d'interaction. Mais ces temps-ci, il y a des gens qui produisent énormément de choses avec H5P spécifiquement, qui est d'ailleurs disponible directement à partir de Moodle, dans une installation de base. On peut partager directement nos contenus en H5P. On peut d'ailleurs mettre plusieurs métadonnées sur chaque élément d'un module H5P, y compris la licence appliquée à un élément, une image qu'on met ou quoi que ce soit. Et il y a quelque chose de ça qui est extraordinaire sur la portabilité, parce qu'on peut l'envoyer d'une plateforme à l'autre, on peut l'utiliser en WordPress et tout ça. Qui aussi, WordPress, c'est aussi une force insoupçonnée, c'est 40% d'Internet, en tout cas du web. Il y a beaucoup de choses, c'est aussi un logiciel libre, c'est aussi avec un modèle d'affaires qui est très intéressant, parce qu'il se débrouille bien. Il y a des sites qui sont payants, bâtis sur WordPress, y compris New York Times, il y a des sites qui sont basés sur WordPress, et ainsi de suite. Parce que WordPress rend tous ses produits en tant que logiciel libre, mais en même temps, il y a toutes sortes de services qui sont offerts autour de ça, et c'est possible de vendre des choses à travers WordPress. C'est la même chose pour H5P. Il y a une compagnie derrière H5P, c'est une entreprise commerciale, Jubel, en Norvège, qui va pérenniser ce système-là. Et ce que je disais sur héros de la pandémie, c'est que pendant la pandémie, il y a plusieurs profs, surtout en Ontario, mais je sais que ça s'est fait au Québec aussi. C'est simplement qu'en Ontario, il y avait un site où ils ont pu les répertorier. Les gens ont commencé à créer des tout petits modules autoportants. Vraiment, des fois, c'est juste une question à choix multiple. Mais le fait de la partager, ça a beaucoup plus de valeur que de la garder pour soi. souvent plus qu'un gros contenu qu'on garde pour soi, un ensemble de notes de cours. Ça peut être plus ou moins utile quand on ne les partage pas plus avant, mais quand c'est une excellente question à choix multiples, avec aussi toutes les données qu'il faut derrière ça, qui l'a créé, tout ce qui se passe derrière ça, il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, je pense que dans l'état du logiciel libre en enseignement supérieur, c'est un peu ça aussi de se dire que ce n'est pas seulement de remplacer Microsoft Office par LibreOffice, qui est intéressant, ou d'utiliser comme on le fait nous trois en ce moment. On utilise Audacity pour nous enregistrer. D'ailleurs, le logiciel de vidéoconférence qu'on utilise en ce moment, c'est une version payante, mais très peu chère, de Jitsi. Donc, à 1 $ par mois, on a accès à une structure, un service Jitsi, qui est un logiciel libre permettant de faire de la vidéoconférence. Alors, on le teste pour vous. Quelque chose, on a insisté un petit peu là-dessus, on va avoir une approche critique. C'est de dire, pour prendre des bonnes décisions, il y a certaines choses qu'il faut concevoir que peut-être ça ne marchera pas très bien, comme Jean-François l'a dit plus tôt. Il y a des moments où le logiciel libre demande un petit peu plus de travail, puis la transition doit prendre son importance. C'est pas seulement investir dans le logiciel comme tel, logiciel libre, donner des sous pour qu'il soit développé, c'est aussi faire un budget pour la transition elle-même. Former les gens à utiliser le logiciel libre, essayer de les tester justement, puis on a une approche peut-être un peu punk. Je viens un petit peu du milieu du jazz, je suis saxophoniste au départ, puis le fait d'improviser, de tester des choses et puis de vérifier si quelque chose fonctionne ou non, c'est quand même assez important pour nous.
Ouais, ben on vous invite, hein, on vous invite à, on vous a parlé d'un paquet de choses aujourd'hui. On va revenir plus en détail sur plusieurs de ces, appelons-les des solutions, hein, des fois qui sont supportées aussi par des compagnies. Je pense que c'est nécessaire parce que il y a des gens qui plongeront pas s'ils n'ont pas de. Je parle pour les profs, là, à un moment donné, on a besoin d'aide. Hein. On va se le dire, on a besoin d'aide, on a besoin de support. Puis, il y a beaucoup de ces logiciels libres-là qui ont du support, qui peut être intégré. On a des gens qui peuvent nous aider. Puis ça, c'est majeur. Parce que, comme prof, souvent, on sent qu'on se fait. puis, je vous dis ça à vous, messieurs les concepteurs, mais on se fait suggérer plein de choses, puis tout, puis avec des petites capsules. Mais dans le fond, on a besoin d'aide. On a besoin de support, on a besoin de monde pour nous aider, pour nous faire comprendre ça. Parce que. On a du contenu à passer, on a des choses à faire, puis on n'a pas le temps. Puis c'est ça, le truc majeur, c'est, puis du logiciel libre, je pense, le défi, c'est il faut qu'on réussisse à supporter les gens pour pas qu'ils mettent trop de temps là-dessus, pour pas qu'ils passent uniquement du temps sur la solution et non le contenu, parce qu'il y a plusieurs profs qui vont vous dire « Ouais, mais moi, c'est le contenu qui m'importe. » Puis, tu sais, en terminant, moi, H5P, je l'ai utilisé avec Moodle. Les deux ensemble, ça peut faire des trucs géniaux. Puis à l'heure actuelle, ben, je pense que ça vaudrait la peine d'en parler parce que, y a beaucoup de collèges, puis je parle pour le mien entre autres, qui achètent des solutions maintenant payantes pour faire ce que H5P est capable de faire et ce que Moodle est capable de faire. Avec raison, peut-être, pour aider certains enseignants qui ont plus de difficultés, mais bref, nous, on est là. On est là pour vous suggérer des affaires, puis on va vous revenir au courant des prochaines semaines, des prochains mois, avec des capsules qui parlent de certains de ces logiciels-là et aussi qui parlent de sujets d'éducation supérieure, hein, parce qu'on est en technologie éducative aussi. Donc, on veut vous parler de ça, on veut vous parler de ce qui se passe dans le collégial, dans l'universitaire à l'heure actuelle, puis on veut amener, oui, des critiques et des solutions à ça. On est là pour ça, la DTE. Vous pouvez nous visiter, hein, adte.ca, si je ne m'abuse. Je suis pas mal sûr. adte.ca, vous pouvez venir nous voir. Puis, vous pouvez nous contacter aussi. On est très gentils. On est là pour vous répondre, pour vous aider. Je voudrais vous remercier. Merci beaucoup, Alex. Merci, Ryan. Ça a été un plaisir de faire ce premier podcast-là avec vous. Tenez-vous au courant. On va vous tenir au courant, nous, parce que il y a d'autres choses qui s'en viennent, d'autres podcasts. Merci beaucoup tout le monde. Puis à la prochaine.
Merci.
Merci.